Antoine, Michel et moi-même prierons pour ceux qui le souhaitent. Vous savez, dans cette marche, il peut arriver que nous soyons fatigués. On a besoin d'une onction nouvelle, on a besoin d'être encouragé, on a besoin de prières. Et nous prierons particulièrement pour certaines personnes, ceux qui le souhaitent, ceux qui le veulent. Alors, je disais, dans les premières sessions, qu'il y a quatre choses qui sont essentielles pour un ministère. Pour qu'un ministère réussisse, pour qu'un ministère puisse aller de l'avant. La première des choses, c'est la vision. Nous l'avons vu, on doit avoir la vision. La deuxième des choses, c'est l'onction que Dieu donne à une personne. La troisième, c'est l'organisation. Je n'aborderai pas cela. Je sais que nos églises sont très bien organisées. Peut-être prochainement, on verra qu'est-ce qu'il faut faire dans une église. Et la quatrième des choses, ce sont les finances. Les finances. Mais tout à l'heure, nous allons parler maintenant de l'onction. Marcher avec l'onction du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre surnaturelle. Là, nous sommes dans le domaine du surnaturel. Il y a des choses qu'on ne peut plus voir à l'œil nu. Il y a des choses qu'on ne peut plus entendre avec nos oreilles. Mais nous avons besoin d'entrer dans ce domaine du surnaturel pour comprendre certaines choses. Dieu nous donne une vision. Mais il va aussi nous donner l'onction pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir le ministère. Tu es évangéliste, Dieu te donne l'onction d'évangéliste. Tu es pasteur, Dieu te donne l'onction du pasteur. Tu es apôtre, Dieu te donnera l'onction d'apôtre. Tu es prophète, Dieu te donnera l'onction de prophète. Alors, nous remarquons quelquefois, il y a des personnes qui travaillent avec une autre onction. Voyez-vous? Ils travaillent hors onction. Tu as été appelé à travailler comme apôtre, mais on te donne l'onction de pasteur. Ouais, tu as un revêtement qui ne te convient pas. Et souvent, ça crée même des frustrations dans ton propre ministère, dans ta propre vie. Tu te sens comme pas à ta place, mais ce n'est pas ton onction. Et nous avons vu en force un évangéliste à rester dans une assemblée. Mais ce n'est pas un pasteur. C'est vrai, il peut aller et revenir. Mais c'est un évangéliste. Laissez-le sortir, gagner des âmes, nous amener des âmes. Un apôtre, il est là pour tout le corps, un prophète, ainsi de suite. Donc nous avons besoin de comprendre ce que c'est. Et le domaine de l'onction, c'est un domaine intéressant. Nous ne pouvons pas travailler avec nos capacités intellectuelles, morales ou physiques, absolument pas. Mais nous avons besoin de l'onction. Vous savez, quand nous prenons conscience de l'onction, notre ministère sera plus efficace. C'est un revêtement. Je sais que je suis revêtu de l'onction de Dieu. Je sais qu'il y a un dépôt de Dieu, quelque chose sur ma vie. Ça, on sait. Et on ne peut pas s'engager à aller servir Dieu tant que cela n'est pas net dans notre vie. Je suis allé dans un pays et nous étions dans un village, vraiment un village reculé où des gens prient. Voilà que le soir, on amène une personne qui était habitée par des esprits impurs. On pourrait dire dans une situation de folie. On l'amène, les parents l'amènent, la personne était agitée, il fallait l'enchaîner, etc. Et dans ce village, il y avait un prophète, nous étions là, un ministère prophétique, et il a simplement dit à ces personnes-là, il a indexé, il dit, vous le libérez, laissez-le libre. Mais simplement, j'ai ressenti quelque chose en direction de cette personne, et la personne est restée tranquille. Saul, il dit, laissez-le, il va rester tranquille. Et la personne était tranquille. Et je dis, mais ça, c'est extraordinaire. Ah oui, quand il y a l'onction, quelquefois, on n'a pas besoin d'élever la voix ou de parler avec autorité. Vous voyez, ça vous accompagne. Et là, ce jour-là, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose d'autre qui me manquait. Mais comment il parle doucement, mais avec autorité, il y a quelque chose qui l'a libéré. Et quelque temps après, nous sommes là quelques heures après, la personne qui était là s'est enfuie. A traversé un ruisseau, il a quitté le village. Il a dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas, personne ne le suit. À partir du moment où il a traversé le ruisseau, il est guéri. Mais il nous reviendra. Personne ne le suit. Je dis, mais tiens. Et le soir, au coucher du soleil, on était là, on voit la personne revenir dans son sens. Il a retrouvé son état, il est revenu dans le village. Mais ça, c'est l'onction. Et la même personne, un jour, il priait. Il y avait du monde, une longue file, il prenait un à un, il imposait les mains. À un moment, il s'est même assis sur sa chaise, il imposait les mains, il priait, il prophétisait, il y avait une longue file. Et il était épuisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé tenir simplement, poser sa main sur un poteau. Il a dit, mais tous ceux qui viendront tenir ce poteau à cette place-là, sont guéris, délivrés, restaurés. Il dit, je ne peux pas prier pour tout le monde, venez simplement, l'onction est là. Alors, toutes ces choses-là paraissaient étranges pour moi. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais au fond de nous-mêmes, on a un peu envie de contester, de dire, mais c'est un peu extra ça. Mais il y a des choses qui dépassent notre entendement, que nous ne pouvons pas comprendre. Voyez-vous? Et quand tu n'es pas arrivé à un certain niveau d'onction, ne t'oppose pas, parce que tu ne comprends pas. Progressivement, Dieu t'amène à un certain niveau, progressivement. Moi, c'est sur les niveaux d'onction, c'est la meilleure image, c'est celle d'Ézéchiel, hein, qui voit ce fleuve-là sorti de la maison et l'eau qui était au niveau des chevilles, ensuite au niveau des genoux, ensuite les reins, et on pouvait nager. Donc, je crois qu'il y a des niveaux d'onction que Dieu donne. Si l'onction est au niveau des chevilles, demande que ça remonte. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir l'onction? Mais c'est en priant, en jeûnant, en lisant la Bible, en vivant dans la sanctification. Le Saint-Esprit est en nous. Que l'Esprit qui est en nous libère l'onction. Que cette onction soit visible, manifeste. Nous en avons besoin. Et les gens qui viennent le dimanche ne viennent pas pour nous voir. Ils ne viennent pas pour nous voir, mais ils viennent rechercher quelque chose. Et que nos cultes soient différents, qu'un feu soit allumé, qu'il y ait la vie de Dieu, un renouvellement, que les choses soient manifestes, évidentes. Et nous prions que ce que nous sémons puisse germer, porter du fruit, et que tout le monde puisse prendre ce fruit, manger, être rassasié. C'est ça notre responsabilité. On ne peut pas servir Dieu tel que nous le faisons, dans la routine, recherchant l'onction. Nous en avons besoin. Accompagnons les jeunes ministères à désirer l'onction, à chercher l'onction de Dieu, qu'ils soient revêtus de l'onction. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Zacharie chapitre 4 et nous lirons les 10 premiers versets. Zacharie chapitre 4, il est dit ceci. Verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il replie et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Nous connaissons bien ce texte et on le répète souvent ce verset. Mais nous voulons comprendre réellement ce que c'est. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il nous demande? Alors nous savons tous qu'après la conquête de Babylone. Il y a Cyrus, le roi de Perse, qui a autorisé les Juifs à repartir dans leur pays Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a nommé Zorobabel comme gouverneur de cet État. Et conduit par Zorobabel, il y avait aussi Josué, le souverain sacrificateur, et tous les autres, les Juifs, qui sont repartis dans leur pays en 538 ans avant Jésus-Christ, donc bien avant. Alors, Esdras, quand nous lisons le livre d'Esdras, il dit que Josué, Zorobabel, donc Josué en tant que sacrificateur, Zorobabel en tant que gouverneur, se levèrent et bâtirent l'autel et le temple de Dieu, détruit par les Babyloniens. En lisant le livre d'Esdras, on se rend compte que quand ils sont repartis, la première des choses était de rétablir l'autel. Ils ont rétabli l'autel et ensuite ils vont commencer à rétablir, à construire le temple. Donc, Josué, Zorobabel ont commencé à bâtir l'autel et le temple. Donc, la Bible dit qu'ils le rétablirent sur ses fondements et reconstituèrent le culte. Mais avant toutes ces choses-là, avant toute activité, il fallait d'abord s'occuper du temple. Quand ils sont installés, avant de faire toutes choses, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes de logement, après le rétablissement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord s'occuper du temple. Or, nous savons que toute la vie en Israël était régie par le temple. Toute la vie. Donc, vous voyez l'importance du lieu du rassemblement. Donc, il fallait d'abord s'occuper de ça. Et avant de reprendre la construction du temple, il fallait d'abord restaurer l'autel. L'autel, c'est aujourd'hui pour nous, c'est le symbole de la communion entre Dieu et l'homme. L'autel, à cette époque, c'est un lieu où on offrait des sacrifices à Dieu. Donc, il fallait d'abord, premièrement, cela, que le peuple qui était parti en Babylone, revenu, puisse retrouver le culte, puisse retrouver la communion avec Dieu, avant de faire toute chose. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, avant que nous puissions nous préoccuper de certaines choses, les problèmes économiques, les problèmes du travail, les problèmes de mariage, de nos maisons, etc. Mais nous avons besoin d'abord de rétablir la communion avec Dieu. Nous avons besoin de refaire l'autel. Si la chose n'est pas faite, mais je vous assure que nous allons travailler en vain, nous n'arriverons jamais. Et aujourd'hui, l'autel, c'est le symbole de la communion entre Dieu et l'homme. L'apôtre Paul dit ceci à l'église de Rome: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, au lieu d'offrir des animaux, comme à l'époque de l'Ancienne Alliance, maintenant nous allons offrir nos corps. Mais on offre les corps où c'est? Mais sur l'autel. Donc c'est la communion, nous nous offrons à Dieu. Et il dit par ailleurs aux Hébreux, il dit par lui, donc par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, offrons des sacrifices. Donc, aujourd'hui, le temple, c'est notre corps. Si vous êtes d'accord avec moi. Le temple, c'était le bâtiment qui était consacré au culte. Mais aujourd'hui, le temple, c'est notre corps. Et Pierre dit que, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, c'est dans notre temple que nous pouvons aujourd'hui offrir des sacrifices. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Et nous avons besoin d'établir, de rétablir l'autel de Dieu, d'établir ou de rétablir pour certains l'autel de Dieu dans nos vies. Alors, ta vie a été détruite par le péché avant de connaître le Seigneur. Nous avons été détruits. Nous étions esclaves du péché. Et le péché a éloigné l'homme de Dieu. Et l'homme a été privé de la communion avec Dieu. Tu ne peux pas rétablir l'autel de ta vie et bâtir ta vie avec tes propres capacités. Nous ne pouvons pas rétablir la communion, rétablir la vie avec nos propres forces. On ne peut pas. Ce n'est pas avec notre beauté, avec nos moyens financiers, avec nos moyens matériels. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Et nous ne pouvons le faire qu'avec l'Esprit du Seigneur. Tu ne peux pas restaurer ton autel, ta vie, avec un pouvoir quelconque. Vous voyez, Zorobabel, quand il est reparti, il essayait de restaurer l'autel et bâtir le temple avec ses propres forces. Et Dieu lui dit, ce n'est pas avec la violence, c'est ce que ça veut dire, ni par tes propres forces que tu accompliras la tâche. La tâche était immense. Nous sommes en train de bâtir l'œuvre de Dieu. Nous avons des ministères. L'œuvre est là, en général, localement et au niveau de la nation ou des nations. Mais ce n'est pas avec nos capacités morales, même si elles sont bonnes. Ce n'est pas avec nos capacités intellectuelles, notre savoir. Ce n'est pas avec nos moyens financiers que nous arriverons. Et Dieu dit à Zorobabel, ce n'est pas avec tout cela. Oui, donc il dit, ce n'est pas avec la violence, parce qu'il y avait la violence à cette époque-là. Il devrait affronter l'hostilité des opposants, ceux qui s'opposaient au projet. Il ne voulait pas que le projet se réalise. À l'époque d'Esdras et à l'époque de Néhémie, vous voyez l'opposition qu'il y avait pour reconstruire la muraille. Il dit, ce n'est pas avec tes propres forces. Donc, il doit lutter contre le découragement dû à la faiblesse des moyens. Hein, ce n'est pas avec tes propres forces. Donc, humainement, on peut se dire, mais on n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'on va faire? Souvent, nous avons tendance à regarder à l'humain. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des crédits pour la salle, pour ceci. On ne peut pas. Dieu fait savoir à Zorobabel que c'est par la force de l'esprit qu'il réussira cette tâche de reconstruction de l'autel. C'est avec la force de l'esprit. Pas la force morale, pas la force intellectuelle, pas la force matérielle ni financière. Avec tout cela, nous pouvons avoir tout cela. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans notre ministère, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans notre Église, nous ne réussirons pas. Et la force de l'Esprit dont parle le Seigneur, c'est l'onction. Nous avons accepté le Seigneur, tous nous avons le Saint-Esprit. À partir du moment où tu dis « Seigneur, viens dans ma vie », il vient dans ta vie. Mais le Saint-Esprit maintenant libère l'onction en nous. Et nous avons besoin de cette onction. Comme je l'ai dit, l'onction, c'est la capacité surnaturelle, pas naturelle, surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir notre vision, pour accomplir notre ministère. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour restaurer l'autel de nos vies et ainsi faire l'œuvre du Seigneur. Nous en avons besoin. Servir Dieu n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel, c'est spirituel. Et nous devons le comprendre, nous devons le savoir. Et chacun de nous a besoin de l'onction pour accomplir la tâche que le Seigneur lui a confiée. On s'arrête en cours de route, pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas eu suffisamment de jus. Le jus dont on a besoin, c'est l'onction. La voiture peut fonctionner, mais il faut faire le plein. Tu connais le kilométrage que tu dois effectuer. Mais si tu ne fais pas le plein en cours de route, tu vas t'arrêter sur l'autoroute. Et beaucoup de ministères sont arrêtés au bord de l'autoroute. Sans là, on arrive, mais tu es là, les autres viennent, ils passent. D'année en année, tu es là, rien ne change. Voyez? Et on n'a pas la force de pousser la voiture. On est là, on attend, on regarde, on voit les autres passer. Ils vous saluent. Ah, voilà, nous avançons. Mais on a besoin de suffisamment de jus. Et ce jus-là, c'est l'onction qui est en nous. Hein? Cette réserve qui est en nous. Pour enseigner la parole, il faut l'onction. Pour intercéder, prier, nous avons besoin de l'esprit d'intercession, de l'onction. Pour conduire la louange, nous avons besoin de l'onction. Pour toute activité dans l'église, nous avons besoin de l'onction. Que le Seigneur puisse oindre d'huile tous ces instruments et ceux qui nous conduisent. Mais sinon, même les chants seront mécaniques. Ah oui, quelquefois on va dans une église, on sent que c'est mécanique. Bam, on passe d'un cantique à un autre. Mais nous voulons que quelque chose de huilé. Voyez-vous? Alléluia. Oh, quand c'est huilé, c'est doux, ça ne coince pas, ça ne fait pas de bruit, c'est agréable. Hein, et le moteur fonctionne bien. Et quand on enseigne, on a besoin de cette touche-là. Ah oui. Quand une personne prêche sous l'onction, on reconnaît. Quand un homme a l'onction de Dieu, en le voyant, on sait, on dit voilà, il y a l'onction sur sa vie. Nous en avons besoin dans tous les domaines de l'Église. Et l'onction explique pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non. Dans les mêmes conditions, Nous sommes tous à Lille, mais pourquoi un tel réussit, pourquoi pas moi? Dans les mêmes conditions. C'est vrai, nous avons des ministères différents, mais tu devrais accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'onction. Ah oui, d'autres disent, non, c'est trop difficile, je ne peux pas. Moi, avec l'onction, je dis, même si les autres proclament que c'est difficile, moi, je trouve que ça sera facile. C'est ça, l'onction qui me permet de dire cela. Ouais, ce n'est pas de l'audace, simplement, mais c'est l'onction que Dieu a mis en moi. Donc, dans les mêmes conditions, on peut donner à tout le monde la même salle. Vous avez la même salle identique, hein, à un kilomètre de là. On vous donne les mêmes instruments, les mêmes capacités, etc., tous les moyens. Mais si tu n'as pas l'onction, rien ne pourra marcher. Alors moi, je ne cesse de dire à Antoine, je dis, mais il y a un potentiel, il y a des opportunités ici pour faire une belle œuvre. Une belle œuvre. Mais qu'est-ce qui manque? Les ministères ont besoin qu'on puisse oindre d'huile leur vie. C'est tout, c'est simplement cela. On a besoin de cette onction. Mais quand vous avez déjà la salle est disponible. Je dis aux jeunes, vous avez déjà la salle ici. Il y a des chaises, il y a la sono, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez? Ceux qui nous ont précédés ont fait leur part. Vous arrivez, vous avez déjà tout. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Recherche simplement l'onction. Tu commences le ministère là où les autres se sont arrêtés. Les autres ont commencé le ministère sans bâtiment, sans instruments, sans rien du tout. Mais vous venez, toutes ces choses sont là. Mais écoute, qu'est-ce qu'il faut d'autre? C'est pour ça que nous avons besoin de marquer la différence. Donc, il faut l'onction. Alors, vous savez, il est difficile d'avoir l'onction. Ne pensez pas que ça, c'est facile. Quand vous voyez une personne prier, que les malades soient guéris, mais la prière, c'est l'onction. Quand vous voyez une personne dans l'église, les âmes qui arrivent, l'onction attire les âmes dans une église. Ne pensez pas que c'est la personne, quelle que soit ta beauté, ton éloquence ou quoi, c'est pas ça qui attire. C'est l'onction qui attire. Donc, il est difficile. Ne dites pas, oui, bon, mais écoute, c'est facile, je peux... Non. Vous voyez, souvenons-nous de Élisée, dans 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 10, c'est lui qui le dit, Élisée, et Élie qui dit à Élisée, il est difficile, tu demandes une chose difficile. Élisée devrait succéder à Élie dans le ministère de prophète. Il l'a accompagné partout, voilà le temps où il devait être enlevé par le Seigneur. Et quand ils arrivent devant le Jourdain, je raccourcis l'histoire, vous connaissez. Ils arrivent devant le Jourdain, ils savaient qu'ils devaient être enlevés. Élisée aussi le savait. Malgré l'insistance d'Élie qui disait à Élisée, tu dois partir. Élisée disait, je ne te quitterai point. Élisée a vécu avec Élie. Il a vu cet homme prier pour les malades. Il a vu des choses qui se passaient dans sa vie. Il était là avec lui tous les jours. Et quand il s'agissait de le quitter, il dit, je ne te quitterai pas. Vous savez, quand il y a un homme d'onction, vous l'avez vu, vous avez envie de rester avec lui. Vous avez besoin, envie de profiter de ce qui est dans sa vie. Il dit, bon, maintenant je m'en vais, que veux-tu que je fasse pour toi? Voyez-vous, il demande. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, mais moi j'allais me frotter les mains, je dis, moi, avec ton onction là, moi j'ai besoin d'argent. Prie pour que j'ai l'argent, beaucoup d'argent. C'est la tendance de l'homme, n'est-ce pas? Ou tu es une femme, tu dis, oui, moi j'ai besoin d'un prince charmant. Et un autre dirait, oui, moi j'ai besoin d'une villa ou de ceci. Chacun de nous aurait sa demande, oui, devant l'onction. Parce qu'on écoute les demandes des gens quand nous prions. Tu veux que je prie pour quoi? Ah oui, moi je suis seul. Vous voyez? Parce que l'onction est là. Mais c'est légitime, nous avons besoin de toutes ces choses. Mais Élisée n'a pas demandé cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Étant dans le royaume, il y a des choses qui de fait m'appartiennent. Je n'ai pas besoin de demander cela. Dieu me les donnera parce que je suis dans le royaume. Et Élisée avait compris cela. Il a dit, je veux seulement de la double portion de ton esprit. Ah, Élie qui dit, mais tu demandes une chose difficile. Voyez, donc l'onction, je vous assure, frères et sœurs, c'est une chose difficile à voir. Tu demandes une chose difficile. Il dit, bon, mais comme tu es là, tu me verras, je serai enlevé. Et si tu es là, tu recevras l'onction. Et Élisée ne l'a pas quitté. Maintenant, avant de traverser le Jourdain, il a pris le manteau, il a enroulé, il a frappé les eaux sont ouvertes. Et ils ont traversé. Donc, Élisée a vu ce miracle, le dernier miracle d'Élie. Et en marchant maintenant, il y a eu les chars de feu qui sont venus et qui ont pris le prophète Élie. Et pendant qu'il allait, Élisée le regardait. Voyez, il y a eu ces chars qui ont soulevé, une tempête de sable. Mais il était là, les yeux ouverts. Mais moi, j'imagine que tout le sable revenait dans ses yeux. Mais il était là, il fallait qu'il voie son maître partir. Mais c'est aussi le prix à payer. Alléluia. Mais il aurait pu fermer les yeux ou il aurait pu se... Non, il regardait. Malgré tout, il dit, moi, je veux voir comment il va. Il faut payer le prix, même s'il y a la souffrance. Et pendant qu'il allait, qu'est-ce qu'il y a fait? Il a jeté son manteau. Mais en gardant les yeux ouverts, avec tout ce sable, il a pu savoir là où le manteau était tombé. Et il a pris le manteau, il est reparti vers le Jourdain, il a roulé le manteau, il a frappé les eaux sont ouvertes. L'onction était sur lui. Voyez-vous, il a demandé quelque chose. Élisée aurait pu demander beaucoup de choses. Il a demandé l'onction parce qu'il a trouvé que c'était quelque chose de plus précieux. Rien ne dépasse l'onction. Rien ne dépasse. Ce qui fait la valeur d'un homme, moi je le dis tout le temps, c'est l'onction qui est sur la personne. Je pense qu'un homme, une femme a de la valeur quand cette personne a l'onction sur sa vie. Donc il dit, il est difficile d'avoir l'onction. Et beaucoup de personnes veulent avoir l'onction, mais peu y arrivent. Mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Le prix dans la prière, la discipline dans la prière, dans le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, dans la sanctification, mais on paye le prix. Dieu peut vous demander de vous enfermer 3 jours pour un ministère qui ne travaille pas. 3 jours dans le jeûne, la prière. Dieu peut vous demander de faire plus que ça. Mais il faut payer le prix pour que ce que Dieu a mis en vous soit libéré, que cela soit visible. Le Saint-Esprit n'attend que cela, notre disponibilité. Lire la Bible, se sanctifier. Voyez, toutes ces choses-là font que l'onction puisse grandir dans notre vie. Et quand l'onction est là, les gens sont bénis. C'est agréable de sentir que tu es le canal de bénédiction que Dieu utilise, que Dieu a choisi. Et quand l'onction est dans une église, dans un ministère, les choses ne seront pas les mêmes dans un culte. Il nous arrive quelquefois, quand on commence les réunions, je vais sur l'estrade, au lieu de commencer par la parole, je sais que l'onction de Dieu est là. Nous avons adoré le Seigneur, nous avons prié, l'onction est là. Quand l'onction est dans une réunion, c'est visible, on sait. Ah oui, on n'a pas besoin, on sait. On n'a pas besoin de gesticuler, on sait que, non, il y a quelque chose qui est là, on sent, on touche. On dit, c'est bon, on peut y aller. Et moi, au lieu de prêcher la parole, je commence à prier pour les gens. Parce que j'ai discerné que quelque chose est là. Je commence à prier. Vous savez, pour ceux qui sont habitués à un rituel, vont dire, oui, il n'a pas lu la parole, pour qu'il ne commence pas par la Bible, pourquoi? Mais parce que l'onction est là. Dieu m'a demandé cela. Et il nous arrive de passer tout le temps, la moitié du culte dans la prière, parce que l'onction est là. Et on termine par la parole. On peut commencer par l'adoration. Donc, il n'y a pas un rituel, il n'y a pas une liturgie, comme disent certains confrères. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit nous conduit comme il veut. Amen. Nous suivons simplement les vagues. Nous suivons le mouvement de l'Esprit. Nous sommes sensibles. L'Église est sensible. Nous avons besoin de cette onction. Et personne aujourd'hui ne peut se priver de cela. Il est difficile d'avoir l'onction. Alors, Jésus lui-même nous donne l'exemple. Jésus, et nous devons suivre ce modèle. Le jour de son baptême au Jourdain, il a reçu l'Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Souvent, nous nous arrêtons au parler en langue. On s'arrête là et c'est fini. On parle en langue. Mais nous devons aller au-delà. Les charismes doivent se manifester dans la vie. Jésus ne s'est pas arrêté au parler en langue. Il était baptisé du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que l'Esprit le conduisit dans le désert. La sensibilité. Quand on a l'onction, on est sensible. L'Esprit est là. Il est allé 40 jours, 40 jeûnes, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Mais c'est le prix. Et quand vous faites cela, vous n'avez plus de vie. Ah, il n'y a plus de vie pour vous. Parce que vous avez été mis à part. Nous sommes consacrés pour cela. Il faut payer le prix. Les gens s'attendent à quelque chose. Il faut que la vision s'accomplisse. Les gens viennent pour être bénis. Quand ils arrivent le dimanche, ce n'est pas un spectacle. Ils ne viennent pas nous voir. Je suis conscient que ces personnes-là ne doivent pas repartir les mêmes personnes telles qu'elles étaient venues. Ouais. Qu'il y ait quelque chose de nouveau. Ouais. Et Jésus est allé. Il a jeûné. Et en repartant, en revenant du désert, il pouvait dire, l'onction du Seigneur est sur moi. Il pouvait l'affirmer. Combien de serviteurs peuvent aujourd'hui affirmer, dire cela, que l'onction du Seigneur est sur moi? Combien? Parce qu'il m'a oint pour guérir, pour délivrer, ainsi de suite. Il m'a oint. Ce revêtement, il dit qu'il était revêtu. Ah oui, quand il y a l'onction, on sait qu'il y a un revêtement. On sait qu'il y a quelque chose dans sa vie. Là où vous allez, vous savez que vous êtes porteur de quelque chose qui a votre taille, un vêtement qui a votre taille. Dieu vous l'a donné. J'ai un costume qui est taillé sur mesure à ma taille. Bon, l'onction, c'est ça. Je porte quelque chose qui est à ma taille. Je suis conscient de cela. Je suis conscient. Et nous devons être conscients de ce que Dieu nous a donné. Et la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. On peut servir, mais Dieu n'est pas avec toi. Ah oui, car Dieu était avec lui. On peut être dans une église, mais Dieu n'est pas avec nous. Ah oui, on rentre dans une église, on sent qu'il n'est pas là. Dieu était avec lui. Et nous savons quand Jésus a exercé son ministère pendant les 3 ans et demi, avant qu'il ne puisse repartir dans la gloire du Père, il a dit à ses disciples, n'allez pas commencer le travail comme cela. Allez à Jérusalem attendre la promesse, ce qui avait été dit par Joël et ce que lui-même l'avait dit dans Jean. Il dit, allez attendre la promesse. Allez attendre la promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez l'onction qui sera sur vous. Et le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu cette onction-là. Mais avant cela, ils sont allés pendant 10 jours. Voilà le prix à payer. 10 jours dans le jeûne, dans la prière. Et le 10e jour, le jour où ils ne s'attendaient pas, le Saint-Esprit, cette onction est venue sur eux. Et nous voyons des transformations. On peut faire toute une étude là-dessus. Voir les transformations après que les disciples aient reçu l'onction. Pierre va se lever. Nous savons que Pierre était un pécheur, un homme sans instruction, mais qui se lève et peureux en même temps. Vous savez, après la crucifixion, il avait fui. Il avait repris son travail de pécheur. Mais après l'onction, qu'il ait reçu l'onction, sa vie s'est trouvée transformée. L'onction apporte des transformations dans nos vies. Et voilà qu'il se lève devant tout le monde, il commence à rappeler toutes les promesses d'Israël. Toutes les promesses. Pourquoi Jésus était venu? Et à la fin de son discours, la Bible dit que 3000 personnes sont converties. Voilà ce que peut faire l'onction du Saint-Esprit. 3000 personnes. 3000. Donc, l'onction que nous avons permet d'attirer les âmes. Et nous allons voir plus tard comment ils vont au temple. Un soir, et à l'entrée du temple, il y avait là un boiteux de naissance qui tendait la main pour demander de l'argent. Et Pierre se met debout, il dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent à te donner. Vous voyez, dans ce monde, tout ce que les gens veulent, c'est l'or et l'argent. Et si vous n'avez pas ça, écoute, on vous met de côté, vous êtes pauvres. Et il avait dit, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Mais Pierre s'arrête. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, Alors là, il lève les yeux et dit, mais qu'est-ce qu'il peut avoir de plus que l'or et l'argent? Ouais, donc nous avons quelque chose qui est au-dessus de l'or et l'argent. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, une parole dite avec onction. Et cette parole-là a eu de l'effet dans le cœur de cet homme-là. Je te le donne. Nous devons donner quelque chose aux autres. Il y a quelque chose à donner. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui aux gens qui viennent dans nos églises? Qu'est-ce qu'on leur donne? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais ça, c'est plus que l'or et l'argent. Aucun médecin n'a pu faire lever ce paralytique. Aucune personne. Ni l'or, ni l'argent. Mais c'est l'onction qui peut faire toutes ces choses-là. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et nous devons être conscients. Pierre a dit ce que j'ai. Oh. Ce que j'ai, c'est merveilleux. Moi, j'ai reçu quelque chose. Tu as quelque chose. Nous devons recevoir quelque chose. Lève-toi et marche. Alors, il faut désirer l'onction. Il faut rechercher l'onction. Avant la Pentecôte, ils étaient tous d'un commun accord, persévérés dans la prière. Il faut rechercher, il faut aspirer. Et le prophète Élie, quand il était là, il était avec un serviteur. Nous connaissons un serviteur, c'est Géasi. Hein, Élie? C'est Géasi, non? Et il avait, non, plutôt, il avait des serviteurs, ceux qui étaient tous les fils des prophètes. Il y avait toute une école de prophètes. Mais ceux-là, quand ils allaient pour traverser le Jourdain, les fils de prophètes étaient là. Ils ont même découragé Élisée. Ils ont dit, mais reste, ton maître sera enlevé. Mais ils n'ont pas demandé l'onction. Eux, c'est les professionnels de la Bible. Les experts. Ils étaient à l'école de formation, mais ils n'en avaient pas besoin. Eux, c'est la lettre. Mais on a besoin de la lettre, on a besoin de l'esprit aussi. Il nous faut cet équilibre-là, et la lettre, l'esprit. Voyez-vous? Mais Élisée avait compris autre chose. Il avait vraiment besoin de l'esprit. Donc les fils des prophètes n'avaient pas reçu l'onction parce qu'ils n'avaient pas désiré. L'onction va aller sur Élisée parce qu'il avait désiré, parce qu'il avait aspiré, parce qu'il avait demandé. Et il faut avoir faim et soif de recevoir l'esprit de Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront... Ok, on peut rajouter, ils seront loin. Alléluia. Dieu ne donne pas l'onction à celui qui n'a pas soif. Celui qui ne veut pas, il ne va pas te forcer. Donc, nous devons avoir soif, nous devons aspirer. Et un jour, il a fait un appel pour dire, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et par ailleurs, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive des fleuves. Des fleuves d'eau vive couleront de son. Ce n'est pas un fleuve, mais des fleuves. Quand l'onction est là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va toujours couler. Pas une seule chose, mais des choses, diverses choses vont couler de vous. Donc, quand il a dit cela, il avait dit de l'esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, dans sa recherche, nous voyons aussi David qui dit ceci, « Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Parce qu'il avait soif de Dieu, soif de l'onction. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Peut-être ici, vous ne le percevez pas, mais dans d'autres pays où il fait chaud, on perçoit. Quand la terre est sèche, mais vous voyez, il y a des fentes, il y a des fissures. Vous passez, vous voyez cela, que cette terre-là, ce sol-là a besoin d'eau. Voyez-vous? Donc, on s'attend, on attend la saison de pluie chez nous, que les pluies reviennent. Donc, il soupire comme une terre desséchée, donc il y a soif qui s'ouvre. Ouais, la terre s'ouvre, il y a des fentes, s'ouvre, Satan dit, Seigneur, on voit la pluie, voyez-vous? Mon âme soupire, mon âme a besoin, mon âme a soif. Alors, comment l'onction peut venir dans ta vie? Alors, je voulais que nous puissions lire dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 2, comment l'onction peut venir dans la vie. Ézéchiel, chapitre 2. Verset 2. Commençons à partir du verset 1er. Cela s'est passé quand Ézéchiel a reçu l'onction de Dieu. Ézéchiel va sentir que la puissance de Dieu, l'onction, était entrée en lui Alors qu'il était en train d'écouter la parole, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est Dieu qui parle ainsi à Ézéchiel. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Ouais, Dieu a parlé à Ézéchiel. Dès qu'il a entendu, l'esprit est entré en lui et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Alors, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie ainsi de suite. Donc, dès qu'il a entendu la parole, l'esprit est entré en lui. Il y avait déjà des bonnes dispositions dans son cœur et dans sa vie. Alors, lisons aussi dans Acte 10, allons un peu rapidement, je vais terminer. Acte 10, verset 44. Ça, c'est alors, ce texte-là, j'aime bien. J'aime bien. Acte 10, 44. C'est quand le Saint-Esprit était accordé aux païens pour la toute première fois par le ministère de l'apôtre Pierre. Alors, tous les prophètes, verset 43, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez, c'est Pierre qui parle ainsi. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc on va voir que l'onction peut descendre pendant qu'on prêche la parole. Nous voyons pendant que Pierre parlait, il prêchait la parole, mais les cœurs de ces personnes, de ces païens étaient préparés. C'est souvent bien, vous savez, moi j'évite quelquefois d'imposer les mains aux personnes. Nous sommes habitués aux voyants, au magnétisme, à tout ce qui est, nous voyons dans notre société, pour ne pas que les gens disent que c'est moi qui ai fait cela. Moi je préfère, quand il s'agit de prier pour le baptême du Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit visite chaque personne, que d'imposer les mains. Quand les cœurs sont disposés, quand les cœurs sont ouverts, quand les cœurs sont sensibles, la chose va se faire. Ah, vous savez, quelquefois, oh non, mais ici tout le monde est bien, mais chez nous c'est terrible. On voit quelquefois les gens imposer les mains, mais à la limite, on a l'impression de tordre le cou de la personne parce que, mais ce n'est pas la pression qu'on exerce sur la personne. Il ne faut même pas pousser la personne. Vous voyez, quand tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est notre capacité, nos forces. Ce n'est pas du magnétisme. Je peux simplement poser la main sur la personne. L'onction, elle va couler. Si le vase est prêt, mais la personne sera remplie. Et sans forcer la personne. J'ai déjà assisté à des réunions où le pasteur dit, allez maintenant, prie en langue. Oh! Je dis, on n'a pas besoin de crier sur les gens comme ça. Quand l'onction est là, les personnes sensibles vont entrer dans la vague. Ah oui, c'est un problème de sensibilité. Alléluia. Soyons sensibles, reconnaissants que la grâce et l'onction est là. Hein, et moi, je vais aller plonger, je veux me baigner là-dedans. Voyez-vous? Et ça, c'est intéressant. On n'a pas besoin de dire aux gens de répéter, de commencer à parler en langue. C'est vrai, on peut le faire, mais je n'aime pas trop. Voyez-vous? La personne doit être sensible. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il y a un trop-plein, ce ne sera pas possible de fermer la bouche. La personne va commencer à élever la voix par là, bas, chabas, kédé, bas. Alors, il y a la gloire qui est là. Et une autre personne va aussi éclater là-bas. Et c'est une contamination. Vous voyez, c'est la vague qui se déplace. Mais il n'y a qu'à surfer sur la vague. Ah, on est dans la joie. Des belles vacances, on est là, sur la mer. Alléluia. Alléluia. Et nous en avons besoin. Et quand vous êtes là dans l'église, vous voyez ça, vous dites, c'est merveilleux. Ça paraît comme la blague, mais c'est merveilleux. Oh, alléluia. Et nous voulons vivre ces choses-là. Qui veut se priver de tout cela? Personne. Alors, l'onction aussi, peut-être, je vais terminer, peut-être aussi, on peut recevoir l'onction par imposition des mains. Souvenez-vous, quand le réveil est allé en Samarie, par le ministère de Philippe, il a fait appel à Pierre et Jean qui étaient à Jérusalem. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à poser la question de savoir s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Les Samaritains ont dit non, on ne sait pas ce que c'est. Et Pierre a commencé à imposer les mains. C'était des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui n'avaient pas fait l'expérience, qui n'avaient pas reçu l'onction. Ils posaient maintenant. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas reçu l'onction. Ils commençaient à imposer les mains et le Saint-Esprit descendait sur eux. Donc, alors là, maintenant, pour les je mets entre griffes, hein, vieux chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis de longues dates. Il y a des personnes dans l'Église qui n'aspirent pas, même les ministères, qui ne veulent plus. Ils disent, oh, c'est fini, je peux prêcher la parole, je reste dans mon état. Non. Pour moi, si nous coachons les ministères, tant que la personne n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas la pousser dans le ministère. Nous attendons. Donc, une personne qui ne fait pas d'effort, on la met de côté. Donc, pour ces vieux chrétiens, nous sommes obligés d'imposer les mains, obligés de pousser. C'est pour cela que certains poussent. Quand je suis né à notre époque, il y avait encore des vieilles voitures. Vous savez, je ne sais pas comment schématiser ça ici, des voitures pour mettre le moteur en marche, il fallait une espèce de manivelle. Ah oui, vous avez bien vu. Donc chez nous, il y avait le chauffeur et il y avait une personne qu'on appelait le boy chauffeur, donc le garçon du chauffeur. C'est lui qui faisait les petites tâches. Donc il venait avec cette manette-là, manivelle, je ne sais pas comment on appelait. Il mettait devant et il tournait. Alors très tôt le matin, c'était un exercice. Il faut avoir les triceps. Ah oui. Le moteur ne démarre pas. Vas-y. Là, il dit ça en dialecte. J'ai pas envie de vous dire ça, mais c'est rigolo. Alors, on l'encourage là. Oh, deuxième fois. Là, on force. Même sept fois. Là, ça démarre. Là, tout le monde est content. Ça, c'est les vieux chrétiens. Il faut actionner, il faut pousser. Là, on est content. On dit, ah, voilà, enfin, c'est parti là. Alléluia. Nous avons besoin de le faire. Quelquefois, ça paraît choqué, mais on a besoin de pousser là. Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ah oui. L'onction qui est dans l'Église, c'est l'onction que nous allons prendre. Josué a commencé à travailler avec l'onction qui était sur Moïse. Tu ne peux pas aller travailler avec une autre onction. C'est l'onction de ton leader. Est-ce que tu me suis? Amen. L'onction de ton leader. C'est pour cela que le leadership est important. C'est lui le modèle, c'est le lead. C'est lui qui conduit tout le monde. Et nous le suivons. L'onction qui est sur lui. Souvent, vous allez dans une église, vous remarquerez que tout le monde prêche comme leur pasteur. Tout le monde. La même intonation, les mêmes phrases, les mêmes gestes. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que l'onction est passée. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée. Alors, l'Esprit de Dieu sur nos vies est une chose essentielle dont toi et moi avons besoin. Voilà pourquoi le prophète Zacharie savait que la chose la plus importante, c'était l'onction. Il a dit, ce n'est ni avec la puissance, ni avec la force, mais avec mon esprit. Nos églises ont besoin de cela. Vous savez, nous avons besoin de nous remettre en cause et de rechercher l'essentiel. Le bâtiment est là. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'onction. Que le Seigneur nous bénisse. Tout à l'heure, on va prier. Je sais qu'il y a quelque chose qui est au milieu de nous. Ah ouais, si ton cœur est ouvert, si tu as soif, nous prierons pour toi. Que ton ministère ne soit plus le même. Que tu puisses faire maintenant des avancées significatives. Que cela soit visible. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous savons que toute parole sortie de ta bouche ne peut revenir à toi sans avoir accompli son effet. Nous te prions, Seigneur, que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs. Nous prions pour l'onction dans nos églises. Nous prions pour ce revêtement sur les serviteurs. Seigneur, oins-nous. Nous avons besoin d'une onction fraîche, d'une onction renouvelée. Merci, mon Dieu. Nous nous attendons à toi maintenant et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À tout à l'heure.
Merci, Germain.
Merci. Merci. Merci.
Allez chercher un petit café. Dans 10 minutes, vous allez entendre la musique. Revenez. On reprend dans un quart d'heure.
D'accord.